Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Nicolas Brousse.
Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro d'Appel sur l'actualité. Dans la seconde partie, nous débattrons des visites des candidats à la présidentielle française en Afrique. Une visite a déjà fait couler beaucoup d'encre, celle qui vient de se terminer, celle de Marine Le Pen au Tchad. Elle a rencontré les soldats de la force Barkhane, mais aussi et surtout le président tchadien Idriss Déby lui-même. C'est le premier chef d'État africain à la recevoir. Avant elle, François Fillon avait fait le déplacement au Niger et au Mali. Emmanuel Macron s'était rendu en Algérie, provoquant au passage une polémique avec des propos sur la colonisation. Que vous inspirent ces visites en général, celles de la candidate d'extrême droite en particulier? Appelez-nous 33 9 693 693 70, appel.actu@rfi.fr. Rejoignez-nous sur Twitter et sur la page Facebook de l'émission où vous êtes déjà nombreux à vous exprimer. Par ces mêmes moyens de communication, vous pouvez poser, comme chaque jour, vos questions sur des sujets d'actualité que vous souhaitez approfondir, comme l'a fait Moussa, qui nous appelle de Bamako. Bonjour Moussa.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, vous avez des questions concernant le Proche-Orient.
Effectivement. J'ai appris sur les zones de la RFI, l'Israël confirme qu'il a mené les frappes sur le territoire syrien. Cette altercation est la plus sérieuse entre ces deux pays depuis le début de la guerre en Syrie. Un affrontement est-il envisageable entre ces deux pays? Et quelle sera la position de la Russie, sachant qu'elle supporte ouvertement le régime syrien?
Alors, pour vous répondre, nous allons rejoindre en direct notre envoyé spécial permanent à Jérusalem, Guilhem Delteil. Bonjour Guilhem.
Bonjour Nicolas, bonjour Moussa.
Alors, ça n'est pas né avec la guerre civile syrienne, ces tensions entre les deux voisins. Est-ce que, comme le dit Moussa, un affrontement généralisé entre Israël et la Syrie est envisageable?
Alors effectivement, ces tensions ne sont pas nées avec la guerre civile syrienne. En fait, les deux pays sont toujours officiellement en état de guerre, et ça depuis 50 ans, depuis la guerre des six jours, en fait, qui avait été lancée par Israël en 1967 et qui lui avait permis de conquérir à la fois les territoires palestiniens, mais aussi le plateau du Golan qui avait été pris à la Syrie. Et la Syrie, elle, n'a jamais renoncé à ses revendications territoriales sur ce plateau-là, qu'elle estime toujours comme faisant partie de son territoire, même s'il est aujourd'hui donc sous le contrôle israélien. Cet état de guerre donc dure depuis 50 ans. Maintenant, est-ce que l'affrontement pourrait monter en puissance? La perspective semble assez peu probable tout de même, car dans les faits, en fait, ça fait quand même bien des années qu'ils ne s'opposent plus directement. Le front entre les deux pays est calme, la frontière est certes fermée et même minée, mais l'ONU a imposé une zone tampon, et avant même le début du conflit syrien, le régime de Damas, même s'il a toujours ses revendications territoriales, il ne cherchait plus à reconquérir le Golan par le biais d'une intervention armée. L'armée israélienne, il faut le savoir, est considérée comme la plus forte du Proche-Orient, et on voit mal comment, confronté à une guerre civile, Bachar el-Assad pourrait se lancer dans une confrontation ouverte avec son voisin. Israël n'a pas intérêt non plus de son côté à se lancer dans une nouvelle guerre. Depuis le début du conflit syrien, le pays observe de très près ce qui se passe chez son voisin, mais il se garde d'intervenir de manière à modifier le rapport de force sur le terrain.
On regarde de très près ce qui se passe chez le voisin, car Guilhem, l'inquiétude d'Israël concernant ce conflit syrien est au moins double.
Oui, le pays veut éviter que l'Iran ne s'installe durablement en Syrie et puisse mener de là des attaques sur son territoire. Et le gouvernement israélien veut également empêcher que le Hezbollah libanais ne s'approvisionne en armes dites sophistiquées auprès de son allié syrien. Ces raids aériens menés régulièrement par les Israéliens visent en général à empêcher des transferts d'armes vers le Liban. C'est a priori ce qui se serait passé la semaine dernière. Cette fois-ci, l'armée israélienne a confirmé ces raids. En général, elle garde le silence sur les raids menés. Si elle a confirmé ses raids cette fois-ci, c'est parce que il y a eu un tir de missile de la part du régime syrien vers le territoire israélien. L'Iran et le Hezbollah, donc les deux grandes craintes d'Israël quant à ce qui se passe chez son voisin syrien, l'Iran et le Hezbollah, qui sont, Nicolas, deux des plus grands ennemis, voire les deux plus grands ennemis aujourd'hui d'Israël.
Alors, comme le faisait très justement remarquer Moussa, la Russie soutient le régime de Damas. Quelle est sa position vis-à-vis d'Israël?
Eh bien, Benjamin Netanyahou était à Moscou il y a 15 jours. L'un des objectifs de sa visite était notamment de renforcer la coordination entre les deux pays sur leurs activités militaires en Syrie. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, l'avait donc dit avant de partir. Jusqu'à présent, les deux pays ont évité tout accrochage en Syrie, il fallait faire en sorte que cela reste ainsi. L'ambassadeur israélien à Moscou a été convoqué au ministère des Affaires étrangères russe vendredi dernier après ces accrochages israélo-syriens. S'il a été convoqué, c'est notamment parce que les troupes russes se trouvaient à proximité des cibles des raids menés par Israël cette nuit-là. Et ces frappes n'ont du coup pas été du goût de la Russie.
Alors elles ne sont pas du goût de la Russie, mais tout de même, en tout cas c'est ce qu'affirme le premier ministre israélien, Vladimir Poutine ne lui a à aucun moment demandé de cesser ses frappes en Syrie.
Benjamin Netanyahou dit en effet que lors de leur rencontre, il a simplement informé le président russe qu'Israël continuerait de frapper ce qu'il considère être des menaces pour sa sécurité. Si nous avons les renseignements et une faisabilité opérationnelle, on frappe et nous continuerons ainsi, a-t-il déclaré cette semaine lors d'un déplacement en Chine. Pas question donc d'une quelconque inflexion de la position israélienne ni de remontrance russe, juste un besoin réaffirmé de coordination entre les deux pays. Je ne vais pas à Moscou juste pour le plaisir d'une conversation, a déclaré Benjamin Netanyahou, car il y a aujourd'hui dans le ciel syrien des avions syriens évidemment, mais russes également, israéliens donc, et aussi ceux de la coalition menée par les États-Unis pour lutter contre l'organisation de l'État islamique. Bref, ça fait du monde et autant de possibilités d'incidents.
Guilhem Deltaï en direct de Jérusalem, l'envoyé spécial permanent de RFI qui répondait à Moussa qui nous appelait de Bamako. Merci à tous les deux. Sans plus attendre, on va rejoindre Mamadouri qui lui est en ligne de Conakry. Bonjour Mamadouri.
Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous les éditeurs d'RFI.
Bienvenue sur l'antenne.
J'ai appris dans les ondes de la radio mondiale que pour la 11e fois, la Cour pénale internationale a refusé d'accorder une liberté sous conditionnelle à Laurent Gbagbo. Mais que si on sente, quel est le motif de ce refus et pourquoi cette fois-ci, le président de la Chambre s'est déclaré favorable à la demande?
Pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Karine Bonneau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du bureau Justice internationale à la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Alors, on rappelle que l'ancien président ivoirien est en prison à la CPI depuis la fin de la crise post-électorale en 2011. C'est vrai que cette fois-ci, sa libération a été une nouvelle fois refusée, mais ce refus n'a pas fait l'unanimité. Tout d'abord, Karine, quels sont les motifs officiels pour ne pas libérer Laurent Gbagbo?
Alors, ils sont plusieurs. Effectivement, d'abord, les juges ont estimé que cette situation, en fait, n'avait pas évolué depuis leur décision de novembre 2015, que sa santé ne s'était pas détériorée et son âge avancé n'est pas un motif de libération. En fait, la Chambre a pris en compte l'extrême gravité des crimes aujourd'hui qui sont jugés par la Cour et le fait que Laurent Gbagbo nie toute responsabilité dans ses crimes pour dire que s'il était libéré de manière conditionnelle, il y aurait de fortes probabilités pour que Laurent Gbagbo fasse obstruction à la tenue de son procès, d'autant qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout clair dans quel pays irait Laurent Gbagbo s'il était libéré de manière conditionnelle et comment, du coup, il pourrait participer à la tenue de son procès. Alors, je vous rappelle que devant la CPI, les accusés doivent être présents pour être jugés. Et la Chambre a aussi insisté sur le soutien d'un groupe très actif de défenseurs de Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui s'est fait aussi souvent remarquer par les juges et même certains ont été exclus du public de la Cour, puisque ce soutien de ce groupe est important dans le sens où ils révèlent sans hésiter les noms des témoins protégés, ils font obstruction, dit la Chambre, à la tenue du procès, et il serait tout à fait possible et probable, dit la Cour, que ce groupe aussi fasse tout pour libérer, pour aider en tous les cas Laurent Gbagbo à échapper à la justice.
Alors on entend les motifs de ce refus, et pourtant, Karine Bonneau, il y a quand même le président de la Chambre qui, lui, se déclare en faveur de cette libération. Est-ce que c'est parce que Laurent Gbagbo est âgé, il a 71 ans, est-ce qu'il y a d'autres raisons?
Alors, il y a d'autres raisons. Alors, le président de la Chambre, ils étaient trois. Le président, effectivement, a dit à tout le moins que la Chambre devait vraiment se poser plus sérieusement la question. Il a reproché aux autres juges d'être beaucoup trop vagues. Et effectivement, il a retenu l'âge avancé de Laurent Gbagbo. Et surtout, un autre critère, il a reproché à la Chambre de ne pas l'avoir envisagé du tout. C'est le temps déjà passé en détention provisoire, en détention par Laurent Gbagbo.
Ça fait déjà 5 ans, c'est plus que la moyenne.
Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il reproche à la Cour de ne pas avoir du tout posé cette question-là, du temps déjà passé en détention. Et à tout le moins, il invite vraiment la Chambre et la Cour à se poser les questions de comment envisager une vraie libération sous condition, tout en reconnaissant que ce serait peut-être impossible, pour des raisons tant juridiques que politiques, le risque d'exploitation aussi politique en Côte d'Ivoire et au-delà. Mais il demande vraiment à la Chambre d'envisager beaucoup plus sérieusement qu'elle ne l'a fait cette possibilité de libération conditionnelle pour Laurent Gbagbo.
Karine Bonneau, est-ce que cette unanimité qui n'existe plus au sein de la CPI, c'est aussi peut-être parce qu'il y a des pressions? Il y a 4 chefs d'État africains qui ont demandé à François Hollande d'intervenir en expliquant que la procédure était beaucoup trop lente. Est-ce que ça peut jouer, ces pressions?
Non, je ne pense pas du tout que ça joue à ce stade. La Cour, c'est vrai qu'il y a beaucoup de reproches d'États africains ou de l'Union africaine contre la CPI, mais les juges là se sont vraiment basés sur des règles très très juridiques. Maintenant, ça pose un autre problème qui est celui effectivement de la longueur des procédures devant la Cour et du droit des accusés et à la défense et le temps que peuvent prendre ces procédures par rapport au fait qu'ils soient détenus de manière provisoire. Mais tout le débat aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs que des États africains reviennent dessus, hein, puisque la Gambie ou l'Afrique du Sud qui avaient décidé de se retirer de la Cour, du statut de la Cour pénale internationale, finalement, ont annulé ce retrait. Ce débat aujourd'hui, je pense, est vraiment hermétique aux décisions des juges en tous les cas.
Merci beaucoup, Karine Bonneau, responsable du bureau Justice internationale à la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Merci d'avoir répondu à Mamadouri qui nous appelait de Conakry. Nous allons rejoindre tout de suite Arsène qui est à Abidjan. Bonjour Arsène.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous les auditeurs de la radio du monde.
Vous avez des questions concernant le Brésil?
Oui, effectivement. Alors j'ai appris chez RFI qu'il y a un nouveau scandale qui a été révélé au Brésil. Et cette fois, ce scandale-là est relatif à la viande avarie. C'est un scandale de grande ampleur. Donc moi, j'aimerais savoir comment est-ce que ce scandale a été révélé au public. Et aujourd'hui, quelles sont les conséquences de ce scandale-là? Je dirais sur l'image du nouveau gouvernement au niveau politique, au niveau économique au Brésil.
Alors pour vous répondre, Marie-Hélène Carrette nous a rejoint en studio. Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Vous êtes de la rédaction brésilienne de RFI. Comment le scandale a-t-il été révélé? C'est la police fédérale hein, qui a mis au jour ce scandale de viande. Des inspecteurs visiblement qui donnaient des certificats complètement frauduleux.
Oui, c'est un gros scandale. L'affaire a éclaté vendredi dernier lorsque la police brésilienne a révélé que des gros exportateurs de viande, vous savez, le Brésil est le plus grand exportateur de viande bovine du monde, et donc ils avaient révélé que ces gros exportateurs avaient corrompu des inspecteurs des services sanitaires du ministère de l'Agriculture pour certifier la viande avariée comme étant propre à la consommation. La police brésilienne a fait une enquête pendant 2 ans, soupçonnant d'irrégularités 21 entreprises, dont 2 grands géants du secteur. Donc, ils sont soupçonnés, en gros, d'avoir commercialisé sur les marchés intérieurs et internationaux la viande périmée, avec une dose aussi hors norme d'un truc qui s'appelle acide sorbique, qui donne une coloration rose à la viande.
Rien qu'au nom, on sent que c'est bien chimique. Hein.
Voilà, il y a certains spécialistes qui disent que ça c'est très cancérigène, enfin... C'est vrai que dans les dos, c'est pour maquiller la viande, en fait, mais pas seulement. Il y a un côté conservation. Il y a ça aussi, ils sont soupçonnés d'avoir fourni aux cantines d'école des saucisses à la dinde ne contenant en vérité que des protéines de soja et fécule de manioc. Enfin, c'est un vaste, une grande mafia. Les entreprises, non seulement sont soupçonnées d'avoir donné des pots de vin à ces inspecteurs d'hygiène, mais aussi d'avoir fait pression auprès du ministère de l'Agriculture afin de choisir eux-mêmes des inspecteurs chargés des contrôles sanitaires. Et tout ça lié au financement des partis politiques. Enfin,
ça fait beaucoup de bruit au Brésil, Maria. Alors, les conséquences économiques de ce scandale, économiques et politiques, économiques, elles sont déjà très fortes, puisque je crois que la Chine et Hong Kong, gros consommateurs, ont suspendu leurs importations.
Oui, je pense qu'il y a une totale d'une vingtaine de pays qui ont au moins limité, restreint, comme la Chine, Hong Kong, il y a les Chili, il y a les Mexiques. Enfin, c'est un coup de massue pour l'économie brésilienne qui va très mal, qui est en récession depuis 2 ans. En fait, le agro-business, les secteurs export, c'était la poule aux œufs d'or du Brésil. C'est le seul secteur où ça marchait, ça marche.
Très exportateur.
Voilà, ça marche à peu près. Donc, c'est très mauvais pour l'image du pays. Et bon, ça montre aussi un rapport assez malsain entre public privé, de nouveau, après tous les scandales de Petrobras, ça tombe vraiment très mal. Le ministre de l'Agriculture en passant, c'est un grand exportateur, pas de viande, mais de soja. Il a calculé que le préjugé pourrait arriver à 1,5 milliard de dollars. Je vais regarder dans la presse brésilienne aujourd'hui. En fait, l'argent, la valeur d'exportation de viande par jour, un dollar, en moyenne, c'est 63 millions par jour. Et en ce moment, cette valeur, elle a chuté à 74 000 dollars. Mais bon, on va voir comment ça se passe, si ça va continuer. C'est vrai que le secteur emploie 7 millions de personnes et les chômages risquent de toucher beaucoup de monde.
Et c'est pour ça que le président Michel Temer a invité dimanche dernier une trentaine d'ambassadeurs de pays importateurs à ce qu'on appelle une churrascaria, je le prononce bien.
Très bien, churrasco. Oui, un churrasco, ça, on mange dans une churrascaria, c'est des grillades, ça a été assez pathétique.
C'est ça, parce que finalement, on n'a pas visiblement complètement convaincu les ambassadeurs de faire passer le message que la viande était sans danger. Merci beaucoup, Maria Lenka.
Et il paraît que c'était la viande importée. Les réseaux sociaux ont fait cette blague.
Ça fait beaucoup, merci beaucoup, la rédaction brésilienne de RFI qui répondait à Arsène, qui nous appelait d'Abidjan. Il nous reste à répondre à Bienvenue, qui est à Djamena. Bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI et en particulier à ceux qui nous écoutent depuis Djamena.
On vous écoute.
Ok, dans 5 semaines se tiendra les élections présidentielles en France. À cette occasion, un débat a été organisé ce lundi entre les 5 grands candidats. À cet effet, je voudrais donc savoir, comment a-t-on pu organiser un tel débat alors que seulement 5 candidats dits des grands sur 11 avaient participé? Qui des 5 candidats s'est-il démarqué lors de ce débat? Et lequel n'a-t-il pas réussi le test?
Pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Bruno Cotrez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au Centre national de la recherche scientifique, au Centre de recherche politique de Sciences Po. Effectivement, le débat de lundi organisé par la chaîne privée TF1 n'a rassemblé que 5 candidats, les principaux, alors qu'il y en a officiellement 11. Est-ce que TF1 avait le droit de ne pas accueillir tous les candidats?
Oui, tout à fait, dans la mesure où la loi française fait une distinction entre la période de la campagne électorale officielle et avant la campagne électorale officielle. Aujourd'hui, on est avant la campagne électorale officielle et la législation française sur les élections indique que dans ce contexte-là, c'est l'équité du temps de parole plutôt que l'égalité. L'équité, ça veut dire tout simplement que les candidats vont avoir des temps de parole proportionnels à ce qu'ils pèsent au fond le jour des élections précédentes ou quel est le rapport des forces aujourd'hui. Donc les 5 grands candidats était tout à fait dans cette logique et puis ben, viendra au moment de la campagne officielle le temps de l'égalité où là il y aura stricte égalité des temps de parole entre les 11 candidats.
Et où des chaînes de télévision françaises ont déjà annoncé leur intention de faire débattre les 11 candidats en même temps.
Tout à fait. Et par ailleurs, il y a bien sûr en France une haute autorité, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui veille de manière extrêmement méticuleuse au respect de la loi et au fait que les différents candidats auront eu leur temps de parole.
Je vous confirme que le CSA fait extrêmement attention, y compris pour les radios. Bruno Cotrez, qui a su se démarquer dans ce débat? On a beaucoup parlé notamment d'Emmanuel Macron, dont c'était la première prestation du genre.
Alors bien sûr, il est toujours difficile dans un débat à 5 pendant 3h30 de trouver un vainqueur et chacun va d'une certaine manière aller trouver que tel ou tel candidat était le vainqueur. Il est certain que pour différents candidats, il y avait différents enjeux. Emmanuel Macron, l'enjeu c'était d'apparaître comme celui qui a une capacité à débattre. On l'avait vu très à l'aise dans ses meetings où il est seul à la tribune. Est-ce qu'il arrivait à être aussi à l'aise opposé à 4 autres candidats? Il s'en est plutôt pas mal sorti. Il n'a pas dominé le débat néanmoins. Le débat, semble-t-il, beaucoup d'analystes observent trouve que Jean-Luc Mélenchon s'en est très bien sorti. Il a été pertinent, il a été drôle, il a animé beaucoup le débat, mais les 5 candidats s'en sont plutôt bien sortis. Moi, j'ai trouvé personnellement que les 2 qui s'en étaient le moins bien sortis étaient dans un premier temps François Fillon, qui dans la première partie du débat a semblé un peu assommé par toutes les affaires judiciaires qui lui arrivent, et puis Benoît Hamon, qui n'a pas complètement crevé l'écran, alors même que quelques jours avant, dans son grand meeting à Paris, il avait semblé trouver enfin sa stature de candidat à la présidentielle.
Merci beaucoup Bruno Cotrez, chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique, enseignant à Sciences Po. Merci d'avoir répondu à Bienvenue qui nous appelait de Djamena. On va continuer à parler de cette présidentielle française. Vue d'Afrique, ce sera dans le débat, dans la deuxième partie d'Appel.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Parce qu'un pays riche en infrastructures modernes,